Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes à l'écoute de Idées Noires, l'émission de la coordination des groupes anarchistes. À tout de suite. Eh bien, rebonsoir à toutes et à tous. C'est la deuxième émission de Idées Noires de l'année 2015. Et on vous dit bonsoir. C'est l'émission de la coordination des groupes anarchistes. Et on va commencer tout de suite, comme à l'habitude, par quelques annonces. Et des annonces qui se passeront d'ailleurs tout ce samedi 17 janvier avec d'abord un soutien à Radio Canu, vous l'avez entendu aussi tout à l'heure. C'est à 15h au café L'autre côté du pont, 25 cours Gambetta dans le 3e arrondissement, avec 5 concerts et une expo photo, rendez-vous compte. On n'a pas lésiné donc sur l'ambiance. Il y aura aussi à grignoter, bien évidemment, et l'entrée est à prix libre. Alors auparavant, il y aura un rassemblement à 14h, donc on peut éventuellement faire les deux l'un derrière l'autre. Un rassemblement à 14h, place de la Comédie, c'est l'opéra, hein, ni plus ni moins. C'est pour les 40 ans de la loi Veil qui a été promulguée en 1974. Et ce rassemblement est à l'initiative du collectif lyonnais de défense de l'IVG qui installera le collectif donc installera son stand d'information de 14h à 17h, place de la Comédie. Et il faut préciser aussi que c'est une mobilisation nationale. Ce samedi 17, toujours, c'est la librairie Terre des Livres, 86 rue de Marseille, dans le 7e arrondissement de Lyon, qui vous propose une projection, Mica, Mi Guerra de España, enfin, si je l'ai bien prononcé, en fait, en français, ça veut dire « Ma guerre d'Espagne à moi ». Voilà, donc c'est un doc de Fito Pocha et Javier Oliveira, suivi d'une rencontre avec l'éditrice. Et pour faire court, bah, c'est la vie d'un couple révolutionnaire pendant la guerre d'Espagne.
Alors c'est la vie de Mika Echeverria, hein, qui était, dont le compagnon était un des chefs d'une des, de ce qu'on appelait les milices, hein, les milices antifascistes révolutionnaires en Espagne en 1936, hein, et qui s'est fait dessouder très rapidement, hein, je crois un mois après être arrivé. Et donc la particularité, c'est que c'est Mika qui a repris le commandement de cette colonne révolutionnaire antifasciste. Et c'est, elle le décrit très bien dans sa biographie, hein, et elle décrit aussi tout ce qu'elle a connu auparavant par les contacts qu'elle avait avec les milieux révolutionnaires, socialistes, révolutionnaires en Europe, etc. C'est relativement intéressant, donc je vous conseille d'aller le voir.
Et on en apprend toujours sur la guerre d'Espagne, en fait.
Et
finalement,
on en apprend toujours sur
80
la guerre d'Espagne,
ans après, voilà. Et donc toujours ce samedi, c'est le centre social autogéré qui propose, pour aider donc à la réalisation du projet de ce CSA, un burlesque show, et ça se passera donc à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu à Lyon, dans le 7e arrondissement. C'est à partir de 20h. Là également, le prix, l'entrée est à prix libre. Voilà, donc pour ces quatre annonces de ce samedi 17, on passe une petite musique, évidemment, comme à l'habitude, avec Mass Hysteria, c'est le groupe, hein, qui nous interprète Vertige des mondes. Mm-hmm. Voilà, c'était Mass Hysteria. Vous êtes à l'écoute des Idées Noires sur le 102.2 de Radio Canut, et c'est la plus belle des radios, comme toujours, et la plus rebelle. Et on va commencer cette émission Idées Noires, la deuxième de 2015.
Par la page hexagonale politique et sociale, quel truc. Allez, on va revenir avec le communiqué du groupe la CGA Lyon, donc notre groupe qui vous présente l'émission ce soir, concernant les événements dont on parle depuis cette semaine, cette fameuse unité nationale, ces attentats crapuleux à Paris notamment. Vous pourrez vous rendre sur Rébellion, qui a fait un gros travail pour archiver l'ensemble des communiqués qui ont été faits par des collectifs libertaires ou des organisations anarchistes de Lyon. Vous verrez, ils sont assez complémentaires, c'est relativement intéressant. Donc, pour le communiqué à CGA, non au fascisme, qu'il soit nationaliste ou religieux. Nous condamnons les assassinats perpétrés le 7 janvier dans les locaux de Charlie Hebdo. Rien ne permet de justifier ce crime fasciste. Il en est de même pour la prise d'otage et les assassinats antisémites qui ont eu lieu dans une épicerie cachère le vendredi 10 janvier. Nous condamnons également les attaques fascistes ciblant des lieux de culte musulmans, ainsi que des personnes musulmanes ou désignées comme telles. Ces attentats s'inscrivent dans la montée générale du fascisme, qu'il s'avance derrière le mot d'ordre de, entre guillemets, la défense de la nation, ou d'une, entre guillemets, civilisation, ou de la religion, quelle qu'elle soit. Ainsi, leurs auteurs respectifs se rejoignent sur le plan idéologique, chacun essayant de mobiliser une clientèle pour leur fonds de commerce, celui du mythe du choc des civilisations et ses conséquences sanglantes pour les classes populaires. Les attentats au service du système raciste. Si, sous couvert d'humour, Charlie Hebdo a reproduit des stéréotypes racistes et participé à la stigmatisation de la minorité musulmane, tout en se défendant de toute intention raciste, ce constat ne devrait pas nous éloigner de l'essentiel. En effet, prendre pour cible un journal identifié ou catalogué comme de gauche, c'est vouloir développer l'islamophobie à gauche et détruire les dernières solidarités antiracistes qui existent avec la minorité nationale musulmane. Et ainsi, ouvrir la voie à une nouvelle déferlante raciste dont les attentats islamophobes récents sont les premières étapes. Sur le plan international, c'est aussi vouloir faire taire toute critique de l'idéologie religieuse au nom du blasphème, d'une stratégie d'intimidation et d'assassinat de journalistes par les takfiris, comme en Tunisie et en Turquie. Les takfiris, le takfirisme, c'est un courant politique religieux violent qui défend une interprétation littérale et réactionnaire de la religion musulmane et qui considère que toutes les personnes qui s'opposent à son idéologie, y compris les personnes de religion musulmane, sont des cibles légitimes de ces attaques. Voilà, donc c'est un des courants du fascisme religieux musulman. L'objectif de ces actes, l'attentat antisémite, quant à lui, s'inscrit dans une vision raciste du monde portée par l'idéologie takfiri, mais aussi dans la longue histoire de l'antisémitisme européen diffusé par le pouvoir colonial dans la zone coloniale française, dans la logique du diviser pour mieux régner, opposant juifs et musulmans pour préserver son pouvoir. L'objectif de ces actes en Europe, c'est aussi, en déclenchant une vague islamophobe, de pousser la minorité musulmane dans les bras du fascisme religieux qui se présenterait comme son protecteur, alors qu'il joue au contraire sa partition dans le renforcement du système raciste. Dans les pays à majorité musulmane, cela permet de se présenter comme opposant à l'impérialisme, alors que les takfiris ont été ses supplétifs locaux dans la répression du mouvement ouvrier et que la majorité de leurs victimes sont des musulmans et des musulmanes. Convergence des courants fascistes. Les fascistes de tendance nationaliste, quant à eux, participent à la même dynamique. Se présenter comme les protecteurs de la « nation », entre guillemets, de « toujours » entre guillemets, l'Occident blanc et chrétien, en surfant sur la vague des attentats et en multipliant de leur côté les attaques islamophobes pour accentuer les fractures entre musulmans musulmanes et non-musulmans et non-musulmanes, et partir ainsi à l'assaut du pouvoir. En apparence opposée, c'est le même projet politique que défendent ces deux courants du fascisme. Racisme, sexisme, homophobie, lesbophobie, transphobie, répression anti-ouvrière, guerre du tous et toutes contre tous et toutes, soumission à l'ordre dominant. Les fascistes religieux takfiri, tout comme les nationalistes français et européens, veulent ainsi sommer chacun et chacune de choisir entre deux versions concurrentes mais convergentes du fascisme. Cette montée du fascisme sous ses différentes formes est du pain béni pour la bourgeoisie, puisqu'elle remplace l'affrontement de classe, la remise en cause du système capitaliste, impérialiste, raciste et patriarcal, par la guerre du tous et toutes contre tous et toutes. Impasse de l'union sacrée. L'État, quant à lui, et comme la quasi-totalité des formations politiques bourgeoises, nous enjoint à l'union nationale. Le peuple, entre guillemets, est censé s'unir main dans la main, exploité comme exploiteur, opprimé comme oppresseur, contre l'ennemi commun, sur le mode du, entre guillemets, choc des civilisations. Il est aussi probable que de nouvelles mesures sécuritaires soient prises au nom de la lutte contre le terrorisme, profitant du choc émotionnel pour restreindre une fois de plus nos libertés et accroître la répression de toute contestation populaire. Pour une alternative, l'unité populaire. Face à tout cela, refusons d'être pris et prises en tenaille entre l'élan patriotique d'un côté et les fascistes de l'autre, qu'ils soient nationalistes ou religieux, qu'ils cherchent à recruter dans la majorité nationale ou les minorités. Refusons les deux faces de la même médaille, le nationalisme et son projet impérialiste et raciste, ou le fascisme religieux. Et développons au contraire la solidarité populaire antiraciste et la lutte contre nos exploiteurs dans le cadre du mouvement révolutionnaire ouvrier international. Prenons par exemple sur la résistance kurde de Kobané, mais aussi sur des révolutionnaires en Syrie ou ailleurs qui ont montré la voie pour briser ce cercle vicieux en luttant à la fois contre l'impérialisme et les fascistes religieux. Vous retrouvez évidemment ce communiqué sur le blog de la CGA Lyon, CGA, vous tapez CGA Lyon, où va-t-on hein, dans votre moteur de recherche préféré. Évidemment, comme on l'a signalé sur Robin, hein, on va pas faire la liste de tous ceux qui ont été sortis, mais la CNT, etc. Rébellion, hein, pas Robin. Voilà, encore n'importe quoi. C'est le trouble de cette semaine. Voilà, vous trouverez un ensemble de communiqués relativement intéressants, parfois aussi critiques sur on va dire l'union nationale et puis un peu l'aveuglement qu'on nous présente autour de Charlie Hebdo et de quand même certains des écrits qu'il y a pu avoir une époque. Hein, je pense notamment aux écrits de Philippe Val ou d'autres hein, qui étaient quand même pas très cool. On va passer à autre chose aussi, une dernière chose parce que c'est vrai que le gouvernement a dit que, au contraire des États-Unis après le 11 septembre, puisqu'on parle à 11 septembre à la française, il n'y aurait pas de Patriot Act. Mais évidemment, le gouvernement prépare une nouvelle législation. On a les prémices des choses qui vont arriver, qui seront proposées. Alors évidemment, comme à chaque fois en France, ça se finit non pas seulement par une chanson, mais par un nouveau fichier. Donc on va création d'un nouveau fichier censé regrouper les personnes condamnées à des faits de terrorisme. Quand on voit la porosité des fichiers, des différents fichiers entre eux et la définition large que peut donner l'état du terrorisme, on peut s'inquiéter de voir qui pourra être sur ce fichier. Réformer les services de renseignement intérieur. Alors voilà, ça c'est le grand truc. Il paraît que les services de renseignement intérieur, hein, la DCRI, les ex-renseignements généraux ont fait un super boulot, mais pas tant que ça finalement. Il faudrait leur donner plus de moyens, notamment être capable de faire beaucoup plus facilement des écoutes téléphoniques qui sont, même si elles sont pratiquées, encore soumises quelquefois à des règlements administratifs et judiciaires qui empêchent de les poursuivre sans arrêt. Il s'agira aussi de remonter, de regonfler les ex-renseignements généraux, donc encore une fois d'augmenter les moyens répressifs. Autre chose, renforcer le contrôle d'Internet, hein, ça c'est une des grandes lubies, hein, donc on va continuer, donc que ce soit mail ou Internet, ça c'est évidemment, on peut se souvenir de ce que pratiquent depuis longtemps les États-Unis, la fameuse NSA, hein, National Security Agency, qui surveille les conversations et les échanges numériques mondiaux, donc la France apparemment aurait envie de se lancer dans la course. Et puis une autre hein, qui pourrait être intéressant pour nos chers camarades qui sont éducateurs et éducatrices hein, au sein de la PJJ, la protection judiciaire de la jeunesse. Je vous rappelle, ce ne sont pas des policiers, ce sont des éducateurs, c'est un service d'éducation. Hein. On leur demanderait d'aider la police à pister les futurs djihadistes, c'est-à-dire de croiser leurs fichiers hein, et de dénoncer ceux qui qui seraient estimés comme étant les futurs délinquants, futurs djihadistes. Quels sont les critères qui vont permettre de juger qu'un jeune, un mineur, est un futur djihadiste en puissance? Les critères gouvernementaux des différents gouvernements ou de la police, on les connaît, sont les mêmes. Absentisme scolaire, etc., etc. On peut s'inquiéter aussi de cette injonction faite à des éducateurs de se transformer en supplé de CIP, en auxiliaire de police, et de dénoncer des jeunes auprès desquels ils sont censés avoir une mission éducative. Donc ça, c'est dans le premier fourgon des mesures qui vont être mises en place et probablement adoptées dans les applaudissements généraux de l'Union nationale. Je vous rappelle que l'Union nationale, ça c'est pour refaire un rappel historique, parce qu'on était quand même l'an dernier, on va être pendant 4 ans sur le mode de la guerre de 14-18. L'Union sacrée, ça a déjà existé en 1914, l'Union sacrée en France, où toutes les organisations, alors de droite, patronale, tous les partis ont déclaré l'Union sacrée contre l'Allemagne à l'époque, y compris et malheureusement des organisations syndicales, des organisations socialistes, des organisations révolutionnaires, des militants révolutionnaires, y compris les militants anarchistes qui ont dit il faut aller se battre en priorité plutôt que d'appeler le prolétariat français, le prolétariat allemand à s'unir contre les impérialistes, il fallait aller combattre l'Allemagne. Résultat, on a passé 4 ans de guerre avec ces militants syndicalistes, ces militants socialistes, ces militants révolutionnaires qui, comme n'importe quel troufion, sont allés se faire crever à coups de balle, à coups d'obus, ce qui a fait une saignée énorme dans le mouvement à l'époque syndicale, le mouvement socialiste auquel la bourgeoisie a bien profité auparavant. C'est ça aussi l'Union sacrée, nous on s'en souvient, donc c'est pour ça que nous on n'oublie pas nos intérêts de classe. Quand l'État, quand le gouvernement nous appelle à nous unir main dans la main avec le patronat et applaudir à tout rompre les forces de police, nous on y regarde évidemment à deux fois. Pour parler des forces de police et de la gendarmerie qui font évidemment un merveilleux travail au dire du gouvernement, plus ou moins passé inaperçu. Aujourd'hui, le gendarme qui avait lancé la grenade au barrage de Sivens, alors même que les premiers éléments de l'enquête administrative de la gendarmerie nationale et les déclarations à tout rompre, aussi bien de Valls que de Cazeneuve, disant qu'ils avaient fait un travail formidable et qu'ils étaient absolument hors de cause, il est placé depuis ce matin en garde à vue. Dans le cadre au bureau des enquêtes judiciaires à Malakoff, dans le cadre évidemment de l'enquête pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Je vous rappelle que Rémi Fraisse était mort. Il s'est pris une grenade offensive en pleine tête. Il en est mort. Et pour l'instant, les forces de la répression qui ont été déployées sur place et qui ont tiré ont été largement disculpées. Alors, est-ce que ça va changer on peut se permettre d'en douter au vu du climat actuel. C'est ce qu'a l'air de penser également l'avocat des proches de Rémi Fraisse, Maître Halimi, qui rappelle qu'on assiste à l'Union nationale après les événements terroristes de la semaine passée, où l'action exemplaire des forces de police est saluée et qui s'interroge sur le choix évidemment du moment pour le placer en garde. Rappelons quand même que la garde vue est quand même faite sous l'égide de la gendarmerie nationale. Ce sont les gendarmes qui vont mener l'enquête sur la gendarmerie. Peut-être plus de détails dans ce dossier macabre comme tant d'autres d'un des nombreux meurtres d'État. On va quitter un peu ce volet politique pour revenir à un volet plus social sur le travail. On va commencer un volet sur la banque alimentaire, parce que vous savez, dans période d'hiver comme ça, on s'inquiète un peu plus des pauvres travailleurs et travailleuses exclus ou avec ou sans emploi, etc., qui ont pas de quoi se nourrir en fin de mois et qui sont obligés soit d'aller au Resto du Cœur, soit d'aller à la banque alimentaire. On nous présente souvent la grande générosité des Français, des Françaises qui donnent. Souvent, on vous attend à la fin de sortie du supermarché pour donner un petit peu des paquets de nouilles ou je ne sais quoi. Et puis, parfois, on vend la générosité des grandes enseignes de distribution, pour ne pas les citer, qui donnent des stocks de choses que, plutôt que de les jeter et détruire, elles les donnent à la banque alimentaire. Alors, rétablissons la vérité, il suffit de se pointer sur le site de la banque alimentaire pour voir ce qui se passe. C'est que en réalité, ces grandes enseignes font un don, mais un don en contrepartie duquel elles obtiennent un abattement fiscal, un abattement d'impôt d'un montant de 60% du don qu'elles ont fait. C'est-à-dire, en gros, que l'abattement fiscal, c'est-à-dire c'est des sous qui n'entrera pas dans les caisses d'impôts qu'elles ne paieront pas. Donc c'est de l'argent qui devrait être redistribué à tout le monde, hein, via l'État. C'est du salaire socialisé qu'on ne touchera pas. En gros, c'est avec cet argent-là qu'on devrait recevoir que l'État rachète une partie des stocks qui ne sont plus vendables par les grandes enseignes, hein, et qu'elles ensuite filent pour être redistribuées. En gros, il n'y a rien de gratuit. Nous payons, hein, indirectement ces dons de nourriture à nos camarades travailleurs et travailleuses qui sont dans le besoin. Il n'y a rien de gratuit, il n'y a rien de charitable dans l'attitude des patrons des grandes enseignes du CAC 40. On va d'ailleurs parler d'une autre de ces enseignes, en reparlant un peu du travail du dimanche. Alors c'est Auchan. Auchan, c'est la famille des Mulliez, une grande famille très riche à l'origine de Roubaix, qui est maintenant évadée fiscale comme bien des familles à côté, à Neschin, l'autre côté de la frontière, donc soit dit en Belgique. Un bel exemple qui avait été mis en place, vous pouvez retrouver un peu plus de détails sur l'excellent site La Rotative, un peu l'équivalent de Rebellion, mais sur Tours. D'ailleurs, nos camarades de Rebellion ont participé à aider à monter ce site d'information. Donc très intéressant site. Il y a eu avant les fêtes de fin d'année, alors évidemment c'est le gros boom, etc., des achats, un article dithyrambique, donc très très louangeur, de la Nouvelle République. C'est le progrès local, hein, la nounou, c'est le progrès de Tours, consacré au travail du dimanche à Auchan-Chambray, hein, dans la banlieue de Tours, où il y avait 150 volontaires qui étaient prêts à travailler le dimanche merveilleux, et qui faisaient un portrait de son directeur charismatique de Auchan-Chambray, Olivier Génin. Alors je cite, hein, Olivier Génin, donc directeur du Auchan-Chambray. Travailler dimanche de décembre ne pose pas de problème, voilà, pour lui apparemment, hein. Et apparemment il prétend que c'est pas ce problème plus pour ses salariés. Nous ne faisons, il y a quand même nous, hein, c'est comme si c'était une grande équipe, hein. Ça c'est l'esprit Auchan, l'esprit d'une grande famille. Nous ne faisons pas cela au dernier moment. Nous donnons le plan en début d'année, magnifique, et les volontaires se manifestent. Ah, nombreux. Le dimanche, il n'y a pas plus de monde que le samedi, mais les gens restent plus longtemps et font des achats, surtout au rayon culture, avec des livres, etc., etc. Et directeur qui, bien évidemment, ne prend pas de vacances pendant cette période, il est vraiment sur le pont avec ses salariés. Il précisait, le directeur, que le travail du dimanche était sur la base du volontariat, payé 150% du salaire mensuel, mais malheureusement il n'a pas précisé que les 400 salariés de Auchan-Chambray, ils ne gagnent pas plus que le SMIC mensuel. Alors 150%, un SMIC et demi pour une journée, sachant que c'est, pour l'instant, il y a obligation d'être payé en heures sup le dimanche. C'est pas parce que Auchan-Chambray a envie de faire un geste, parce que pour l'instant, la loi l'oblige, jusqu'à ce que Macron nous la détricote et nous présente le dimanche comme, c'est ce qu'il voudra bien faire un de ces quatre, comme un jour comme un autre. Et voilà, une belle histoire de tous les salariés sont prêts à aller travailler, se sacrifier le dimanche pour gagner un petit peu plus, en gros quelques outils. Qu'est-ce qu'on apprend deux jours plus tard? Un nouvel article, toujours concernant ce Chambray Auchan. On apprend que cette fois-ci, Olivier Génin, le dit directeur est sous le coup d'une sanction disciplinaire interne par l'entreprise Auchan. Et pourquoi? Et parce qu'il aurait des problèmes de comportement et de harcèlement au travail. Magnifique. Alors on n'en sait pas plus sur la nature de ce harcèlement. Ça peut être aussi bien du harcèlement sexuel que de la pression, des pressions dissimulées. Rappelons-nous, et on le sait, que souvent quand on nous présente, et ça c'est le cas de plusieurs enseignes de grande distribution, des salariés qui se précipitent pour travailler le dimanche, on voit ce qu'il en est quand on a un SMIC, 150% d'un SMIC, c'est quand même pas génial. Il faut pas oublier qu'il y a un certain nombre d'enseignes qui aussi retirent les primes de fin d'année aux salariés qui ne se sont pas portés volontaires pour travailler de l'immense ou pour prendre des heures supplémentaires. Alors, quelle est la nature du harcèlement? Est-ce que c'est ce type de harcèlement économique ou du harcèlement sexuel? En tout cas, c'est à ce point grave que même la direction Auchan, même la famille Mulliez, parce que dans la famille Mulliez, tout est contrôlé, comme dans une mafia, hein. Il n'y a rien qui est sous-traité, y compris la sécurité à l'intérieur, y compris les enquêtes à l'intérieur. Ça fonctionne réellement comme ça, à l'ancienne, comme le bon vieux capitalisme patriarcal du 19e siècle, hein. D'ailleurs, cette société n'est pas cotée en bourse. tout l'argent appartient encore à la famille Mullier. C'est à ce point grave apparemment les faits que même la famille Mullier a dépêché ses enquêteurs internes pour prendre des sanctions disciplinaires avant que ce soit la justice prud'homale qui peut-être prenne d'autres sanctions. C'était là aussi le monde merveilleux hein, de l'union sacrée en France. On s'aperçoit qu'il faudrait se mettre main dans la main avec nos exploiteurs et nos oppresseurs. On en finit aujourd'hui pour l'actualité hexagonale, on passera après les luttes. Nombreuses luttes qui continuent, même si elles ont été passées sous le boisseau ces dernières semaines, on passera à l'actualité tout aussi riche internationale. Et avant, une pause musicale, eh bien on va passer, de toute façon, je ne sais pas, grande originalité, on va passer souvent les mêmes musiques, on va passer Sonic Youth, donc qui va nous chanter Youth Against Fascism, c'est-à-dire la jeunesse contre le fascisme.
Envoyé.
Vous êtes bien à l'écoute du 102.2, donc c'est Radio Canu sur la bande FM, et comme tous les mercredis de 8h, de 20h à 21h, c'est l'émission Idées Noires présentée par les camarades de la coordination des groupes anarchistes. Et là, on va passer au torrent, au déluge, à
une palanquée
de lutte sociale.
Oui, on va commencer par justement notre bonne ville de Lyon et dans le 4e arrondissement de Lyon. J'avais fait la lecture d'un communiqué du personnel de l'internat Favre, Adolphe Favre, donc qui est en colère. Le personnel et l'intersyndical CGT Sud, EFO et CGT UGICT. Donc, il y a une suite, et cette suite, la voilà. Donc, c'est l'internat Adolphe Favre, internat communal, qui est en grève depuis la mi-décembre contre une fermeture programmée par la mairie centrale. Donc, l'internat Adolphe Favre accueille une soixantaine, pour rappeler un peu en mémoire, qu'elle accueille une soixantaine d'enfants du primaire qui sont en difficulté scolaire et sociale. Alors, cet internat a un coût, évidemment, puisqu'il est de 1,7 million d'euros par an, donc payé par la collectivité, c'est-à-dire la ville de Lyon, et l'État qui participe, mais avec quelques miettes seulement. Donc le maître métropolitain, je l'appelle comme ça maintenant, Gérard Collomb, économe sans cœur, a décidé de se réapproprier donc, la structure, et quand on dit structure, c'est le bâtiment. On appelle ça donc une bonne affaire immobilière, dans ce quartier Chazière, dans le 4e arrondissement de Lyon, assez huppé, ma foi, et qu'un hôtel particulier serait donc le bienvenu à cet endroit pour éponger, par exemple, Confluence. Donc l'internat a reçu un soutien dans sa grève. 23 restaurants scolaires étaient en grève à la mi-décembre et un rassemblement devant la mairie. Et pour parler de mobilisation, parce que c'est ça qu'il est question ce soir, et d'un rassemblement, ça sera le lundi 19 janvier à l'initiative de l'intersyndicale CGT Sud EFO et UGIC de CGT et des personnels aussi de l'établissement, des familles de l'internat, manif et rassemblement qui sera organisé donc ce 19 janvier avec un départ à 13h de l'internat qui se trouve 86 rue Chazière dans le 4e arrondissement de Lyon. Une pause sera effectuée à 14h à la mairie du 4e arrondissement et un rassemblement devant la mairie du premier, enfin la mairie de Lyon, pardon, dans le premier arrondissement à 15h. Alors c'est là que justement ce jour-là se tiendra la discussion qui devrait déterminer l'avenir de l'internat, bien qu'il semble que d'ores et déjà la fermeture soit actée au bon vouloir de l'autorité socialiste de la ville représentée par son maître donc des lieux, Gérard Collomb. Voilà, donc rappelez-vous, lundi 19, rassemblement à la mairie à 15h, et si vous voulez venir avant, à 13h à l'internat, 86 rue Chazière, et ensuite on partira sur la mairie centrale dans le premier arrondissement, donc place des Terreaux. Sergi Pontoise maintenant, donc ça c'est dans le 95, il y a quelques mois de cela, j'avais fait un petit papier là-dessus, le conseil général du 95 engageait une procédure à l'encontre de la maison départementale de Sergi, entretenue par les syndicats. Mesure de résiliation, procédure serait plus exacte, amenant à l'expulsion des 10 syndicats. Alors, levée de bouclier, évidemment, de la CGT, de la CFDT, de la CGC, de la CFTC, de FSU et de FO Métallurgie du 9-5. Alors, toute, évidemment, la panoplie est représentée, sauf Sud, bon, qui n'était pas là, qui n'a pas été mentionné, pas même solidaire, étonnant, non, puisque c'est peut-être un boudage ou un snobinage, à le savoir. Donc, telle est la question. Bref, il y a mobilisation, action, le 19 décembre. Mobilisation, action, le 19 décembre, détermination, délégation. Alors, devant tous ces yons, le président du Conseil général a dû donc sursoyer à l'expulsion. Alors, tour de table, youpi, avec les belligérants, le Conseil général, collectivité territoriale et syndicats. La tanière, entre guillemets, syndicale, a un coût quand même, là aussi, de 200 000 euros par an. Alors, est-ce que c'est gagné? On ne sait pas trop. Attendons la suite. À Paris, maintenant, c'est la tour Eiffel qui monte au ciel, comme disait la chanson. donc en cette fin d'année 2014, a connu sa grève. J'en avais parlé également, je l'avais relaté la semaine dernière. Donc les salariés boutiquiers qui étaient grévistes ont eu, après 5 jours, on peut dire, des avancées, malgré l'obstruction aux négociations de la part de la direction. Alors ils ont obtenu 200 euros bruts mensuels sur le salaire, une prime mensuelle de 200 euros pour le mois de décembre et une prime à 80 euros sur objectif si le chiffre d'affaires mensuel est atteint et une prime mensuelle de 150 euros si l'objectif dépasse 10% du chiffre d'affaires. Voilà, donc la couleur est mise. La tour est une grosse carotte et la reprise a été votée donc en Assemblée Générale. Alors par contre, à Toulouse, c'est le métropolitain qui a cessé toute desserte sur les lignes A et B. Une partie du personnel en grève sur le réseau Tisséo. Interruption de 2 heures, de 11h à 13h. Ensuite, une autre équipe reprenait le trafic. Alors, est-ce que cette autre équipe a fait la grève également, a suivi cette grève? Je ne sais pas. L'action devait se renouveler jusqu'au 31 décembre pour obtenir des augmentations de salaire, des augmentations de salaire compensatoires pour le service mis en place jusqu'à 3 heures du matin le week-end. Et 70 personnes ont participé à cette grève. À Saran, c'est dans le Loiret, c'est Amazon. Amazon qui s'étend partout. Le leader du commerce en ligne a connu une vague de mécontentement de ses salariés. Alors, petite vague, hein, parce que ça concernait une vingtaine de personnes. Alors, la cause, selon la CGT, c'est que la direction, au grand étonnement de tous et de toutes, a concédé des jours de congés non prévus et même des congés qui étaient interdits jusqu'au 24 décembre, à cause de cadeaux, quoi, évidemment. Mais qu'à cela ne tienne, le boulot s'est fait quand même par des intérimaires sur les sites logistiques du Loiret, de la Drôme et de la Saône-et-Loire, du Nord également. Alors selon le syndicat, la mobilisation porte sur les conditions de travail, les salaires et la direction qui refuse aussi toute négociation.
À savoir aussi, on en avait parlé dans la rubrique internationale, que la grogne contre Amazon, elle existe chez les salariés également en Allemagne, en Angleterre, et un peu partout. Ils sont implantés parce que ce sont des méthodes de direction et de management qui sont quand même pas soufflées des verres, quoi.
Tout à fait. Alors, EasyJet maintenant, la Zebig compagnie aérienne Low Cost était dans ses petits souliers, était dans ses petits souliers le jour de Noël et le lendemain. Pourquoi ? Grève, évidemment. 40 vols annulés quand même, ce qui représentait 30%. Les stewards et hôtesses ont cessé subito le travail. Enfin, quand je dis subito, c'est que la grève a été quand même déclarée 48 heures avant, selon la loi Diard, qui oblige évidemment à déclarer une grève 48 heures avant, ce qui a permis à la direction de faire appel à des jaunes, des volontaires si vous préférez. Les grévistes et les syndicats SNPNC-FO et UNAC-CGC exigent l'abandon par la direction de la baisse de 25%, une baisse unilatérale de l'actionnariat d'entreprise, la création d'une prime d'intéressement, l'amélioration de la gestion des plannings, la mise en place d'un contrat de prévoyance après négociation. L'actionnariat, pour donc ce premier point qui a mis tout le monde en colère, représente quand même 2 semaines de salaire et la baisse est prise comme une punition par les salariés. L'actionnariat, faut expliquer donc que l'actionnariat chez EasyJet est basé sur l'indice, donc le calcul du bonus de satisfaction des clients. Et les clients ne l'étaient pas, donc ce qui justifiait aux yeux de la direction cette baisse de 25%. Donc la grève était reconduite le 31 décembre et le 1er janvier. La compagnie réalise un bénéfice quand même opérationnel à 22%. Elle est même allée jusqu'à proposer 110 livres sterling, ce qui fait 140 euros, à des personnels grand-bretons, anglais et italiens, pour casser renforcer la grève. Et au 2 janvier, petite avancée, puisque les grévistes obtenaient quand même des négociations. Alors ça réchauffait un peu le cœur, évidemment, des 600 hôtesses et stewards employés en France. Représailles patronales maintenant, et je dirais représailles patronales par espionnage, selon la CGT. Comme au cinéma, hein, tout bonnement, on achète des espions. Et la CGT, porte plainte contre le groupe de maisons de retraite et cliniques Orpea Clinéa. Si c'est pas malheureux de porter le paix contre des maisons de vieux et de vieilles, mais c'est justifié quand même. Il faut dire qu'il y a, il y a du grain à moudre là ici. La direction a mis en place un système d'infiltration du syndicat et du personnel par 3 personnes engagées parmi le personnel, brancardier, entretien et accueil. 3 points bien ciblés. Les 3 loustiques appartiennent, ils sont en fait des salariés du groupe Synergie Global et espionnait depuis 2010 dans plusieurs établissements, dont un à Lyon. Ces James Bond de la bande Velpo rendaient donc leur devoir toutes les semaines à la direction. L'un de ses apôtres est même devenu élu de la CGT et participait aux réunions syndicales et aux réunions du comité d'entreprise en 2011. Puis à un comité de travail. La direction s'est justifiée en invoquant une réalisation, alors tenez-vous bien, d'une étude, je cite donc la direction, d'une étude sur les risques psychosociaux, et elle ajoute que la pertinence reposait en grande partie sur le caractère anonyme des intervenants, avec garantie déontologique, consciente du risque des dérives. Fermez le banc. Et il y en a eu des dérives, puisque le groupe Synergie Global est bien connu. En plus court, ça fait GSG, est impliqué, donc ce groupe est impliqué dans une instruction. C'est une affaire d'espionnage, là également, chez IKEA. Et remarquez que ça rime avec Orpea et Clinéa. Et donc la prestation valait 12 500 euros hors taxes. Donc la CGT a porté plainte, ça valait bien ça. Il y avait aussi 40 courageux en ce début d'année, même en fin d'année et en début de cette année, du côté d'Angoulême, à Rabion, c'est le site Le Roi Sommaire qui était en grève, sans occupation, il y avait des piquets de grève, mais enfin il n'y avait pas d'occupation des locaux, il n'y avait pas de blocage non plus pour obtenir donc une satisfaction, c'est-à-dire pour une prime de participation qui était, d'après leur avis, faible. Ils ont passé donc les 2 réveillons sur le site, et 9 personnes ont même été assignées la veille pour grève abusive. Celle-ci, cette grève, a démarré le 17 décembre, et au 4 janvier, ils étaient 100 en une centaine de personnes en assemblée générale. La grève a été reconduite, et même voir sur d'autres sites de Leroy Sommaire. À Hennebon, c'est une grève chez Bricomarché, c'était le 4 janvier également, avec 14 salariés, 14 grévistes, donc ça fait du 100% de grévistes. Magasin fermé, donc. Les grévistes exigent un dialogue social, un point, c'est tout. À Béthune, dans le Nord, chez Auchan, encore, tiens, une grève de débrayage le 4 une grève et des débrayages le 4 janvier pour les salaires qui stagnent chez Auchan, des primes envolées également, grève qui a été entreprise au moment des soldes, bien choisi, et à l'ouverture d'un magasin concurrent, bien choisi aussi, donc c'est une tactique, et il faut dire là, c'est une tactique CFDTiste. Écomouv maintenant, on se rappelle, Écomouv aussi, quand l'État s'apprête à rembourser 839 millions d'euros, une bagatelle au futur ex-gestionnaire de l'écotaxe et à leurs actionnaires, et bien en même temps, 153 salariés, ex-salariés, risquent eux de rencontrer la biquette et de lui dire bonjour, c'est-à-dire de n'avoir plus rien du tout. Et le 6-01, une réunion du CE, du comité de l'entreprise, devait étudier un PSE et un sauvetage aléatoire de la SNCF, qui est resté sans suite d'ailleurs. Alors pourtant, Ségolène Royal l'affirmait, alors je cite Ségolène Royal, ces salariés qui sont parfois très compétents. Voilà, cela dit, parfois, parfois très compétent.
Ils ne savent même pas lire de Macron. Hein.
On oui, est quand même dans le même gouvernement,
c'est ce mépris de classe pour les travailleurs et les travailleuses.
Bon, en attendant, en fait, les autostrades, les Steria, SFR, SNCF et autres Thalès vont toucher les pépettes. Et vous avez compris que ce sont tout cela, tout ce que je viens de nommer, ce sont les actionnaires d'Ecomove. Les Lilas, maintenant, dans le 93, alors je ne vais pas parler de la maternité des Lilas, on en a suffisamment parlé, j'espère que ça s'arrange pour eux maintenant, pour elles du moins, la maternité, mais c'est une blanchisserie de 72 salariés, RLD, c'est son nom, est occupée depuis le 24-12 par quelques dizaines de personnes. RLD appartient à un groupe de 2000 employés en France et est leader sur ce marché depuis 90 ans. Alors la cata, c'est que la direction a décidé de fermer. Alors il propose en même temps à la fois le licenciement ou le transfert en Île-de-France, aux quatre coins donc de l'Île-de-France. RLD appartient depuis 2013 à Vermeer Capital. C'est un fonds d'investissement avec dans ses rangs Bon, Michel Bon. Hein, si vous vous rappelez un petit peu de Michel Bon, c'est l'ex-PDG de Carrefour et de France Télécom, donc un spécialiste de la restructuration. Alors on vire, on modernise, on vend, sans contre-expertise sur la justification économique de la fermeture. Et selon l'intersyndicale, RLD a touché le CICE à 4 millions d'euros. Une opération immobilière est à la clé qui se dessine. Et au début janvier, la grève était reconduite. 6 salariés étaient même assigné pour entrave et blocage. Alors, je partirai pas de ce micro, de cette émission ce soir, sans un petit truc sur la SNCM, Société Nationale Corse Méditerranée. Avec, j'avais dit la semaine dernière qu'il y avait apparemment plus rien à faire et puis qu'il y avait rien dans la besace du Père Noël en ce qui concerne les actions. Et je me suis un petit peu trompé, puisqu'il y a des menaces cégétistes qui se pointent à Marseille, avec pour parler des occupations, une occupation des bateaux. Si la compagnie est délapidée, dépecée, décortiquée, alors ça sent quand même un petit peu la rupture totale, ce qui a provoqué donc le courroux syndical. C'est une audience sur la situation financière de la compagnie qui est en redressement judiciaire. Cette audience a été reportée, apparemment la CGT comptait beaucoup dessus, et je rappelle qu'il y a 2000 marins et autres qui sont toujours sur les quais du port de l'Angoisse. Et puis pour, je vais pas terminer non encore, puisque c'est ces abattoirs qu'on abat, c'est autour de AIM maintenant, 600 personnes salariées dans la Manche, à Sainte-Cécile et à Entrain dans l'Ille-et-Vilaine, redressement judiciaire, patin et couffin, évidemment on connaît toute l'histoire, 6 mois en observation comme la SNCM, rassemblement des salariés sur appel de l'intersyndicale avec en tête ce qui est dans l'esprit en fait ce qui est arrivé à leurs collègues de GAD en Bretagne, où près de 550 travailleurs et travailleuses sont sur le carreau. Un repreneur pour AIM est possible. Les craintes de suppression de postes sont possibles aussi. Des coupables à la déchéance de AIM, on les cite, c'est l'embargo russe, la concurrence, la grande distribution, enfin bref, tout un tas de gens. Bref, tous les maux d'aujourd'hui. L'intersyndicale montre, elle, le repreneur de 2013, 3, CAP 50. En tout cas, le cochon de payant, ce sera le salarié, enfin, du moins la masse salariale. Et puis, j'ai une petite blague pour terminer, une petite blague si on veut quand même. Le Kiki qui a dit ça, c'est une petite rubrique que j'avais, que j'avais mise au point il y a quelques années, mais que j'avais complètement abandonnée. Mais là, il a fallu que je la remette un peu à l'œuvre. Alors, Kiki qui a dit ça, je vous le dis, je cite, « Le projet de loi Macron mériterait une mobilisation syndicale, on va y réfléchir ». Alors, qui c'est qui a dit ça, à votre avis? Je interroge du regard mon camarade.
Le Pan?
Presque, pas loin. Oh, bien, bien. Non, c'est de Jean-Claude Mailly, qui est le secrétaire général de EFO, je rappelle.
C'est pas loin, quand même.
Et c'est ce que j'ai dit.
Il vient de se faire dessouder.
Tout est dans le... On va y réfléchir. Et c'était donc récemment, puisque c'était le 7 décembre.
Allez, sans pause musicale, on va faire un petit peu international. On va d'abord rendre hommage à nos camarades anarcha-féministes, féministes sordiques, syndicales et en général toutes celles qui luttent pour les droits des femmes. Et là, c'est quand même bien bonne, hein. C'est peut-être un message de bonne année. C'est le cardinal américain Raymond Burr, comme quoi on va voir que les religions, quelles qu'elles soient, restent toujours aussi profondément réactionnaires et dangereuses, qui estime, hein, dans une interview qu'il a donnée pour un site, que ce sont les féministes radicales qui ont créé les prêtres pédophiles. Alors accrochez-vous bien au niveau du raisonnement, c'est quand même assez puissant. Et oui, à cause des féministes, en effet, l'Église a constamment dû se pencher sur les problèmes des femmes, au lieu de se consacrer aux questions importantes et aux critiques des hommes, et notamment aux questions importantes des dons particuliers que Dieu donne aux hommes, et pas aux femmes, pour le bien de la société, évidemment. Et il continue... À cause de cette action des féministes, hein, des hommes qui ont grandi sans véritable identité masculine, sont de fait pauvrement formés et tomberaient dans la pornographie, la promiscuité sexuelle, l'alcool, la drogue et toute une gamme de dépendances. Et il finit quand même par dire que la perte d'identité sexuelle qu'entraîne chez les hommes le féminisme radical a conduit des pédophiles à devenir prêtres. Écoutez bien, il y a eu une période où les hommes, féminisés et confus au sujet de leur propre identité sexuelle, sont entrés dans les ordres. Malheureusement, certains de ces hommes, souffrant de troubles de leur identité, ont abusé sexuellement de mineurs. En réalité, selon lui, les véritables responsables des abus sexuels sur les mineurs, ce ne seront pas les prêtres, ce seront nos camarades féministes. Elle est quand même bien bonne, cette blague-là. On va rester dans les pays anglo-saxons, mais très rapidement, on va passer en Angleterre. On en reparlera dans les semaines qui viennent, parce que ça risque de chier. D'abord, c'était la grève des bus, les gros bus impérial rouges à Londres. Il y a, faut savoir qu'il y a près de 8800 autobus rouges qui assurent les trajets de plus de 6 millions de personnes à Londres, sachant que c'est le moyen de transport le plus populaire, parce que le moins cher, le plus pratique et souvent le plus rapide. Et il y a eu une grève ce mardi 13 janvier. Attention, 2/3 des bus sont restés au dépôt, 2/3 de bus bloqués à cause grévistes. Un fait très rare, hein, les grèves, et surtout dans un secteur privé, parce qu'il faut se souvenir que le réseau de bus de Londres a été privatisé en 1984, évidemment sous le gouvernement de Margaret Thatcher. Il faut savoir que les revendications de nos chauffeurs de bus sont des revendications salariales, notamment parce qu'il existe, accrochez-vous, 80 grilles de salaires différentes pour le même travail consistant à conduire un bus dans les rues de Londres et de son agglomération, et donc avec des salaires qui restent toujours assez faibles, parce que le salaire moyen horaire des chauffeurs, il est de 10 livres 18 sterling, hein, alors qu'on estime que c'est, il faut au minimum 9 livres sterling pour vivre plus ou moins décemment à Londres, que leur paye, elle est de 17 000 à 25 000 livres par an, alors que le salaire moyen dans la capitale, il est de 41 500 livres par an, donc ils sont plus qu'exploités, avec plus de 80 types de contrats et de grilles de salaire pour le même travail, donc une division salariale extrême, provoquée évidemment par la privatisation, parce qu'il y a un nombre assez impressionnant d'opérateurs. Il y a 18 compagnies privées qui gèrent le métro, les bus londoniens, dont une filiale de la RATP. Il faut le savoir quand même, la London Sovereign, donc la RATP, hein, qui évidemment, elle n'a jamais de sous pour baisser les tarifs, mais elle investit quand même pour exploiter les chauffeurs de bus londoniens et se faire du fric là-bas. On va rester en Angleterre aussi, parce que l'une des réponses, évidemment, du gouvernement et des Tories. Les Tories, c'est les conservateurs du Premier ministre Cameron, qui est venu pleurer un petit peu avec les chefs d'État en France, etc. Il n'oublie pas, lui, son rôle de chef d'un gouvernement. Et donc, qui c'est qui va trinquer au final ? Eh bien, ce sera les salariés du secteur public, parce qu'il faut savoir qu'il est déjà en campagne, il y aura des élections législatives en mai 2015, et que Cameron, qui a envie, bah, évidemment, que son parti remporte encore une fois la mise, promet un sacré changement, une réforme ni plus ni moins que du droit de grève dans les services publics, qui concernerait le secteur de la santé, des transports, de l'éducation et voire même des services de lutte contre les incendies. Une réforme nouvelle qui permettrait d'avoir des conditions pour déclarer la grève encore pire que celles qui existent dans le secteur privé en Angleterre, où il faut que les salariés obtiennent un vote majoritaire pour pouvoir déclarer une grève. Ça, c'était les réformes du Code du travail du Thatcher, ce qui fait qu'il y a peu de grèves déclarées en Angleterre, et elles doivent être menées, anticipées très longtemps à l'avance par les camarades syndicalistes qui doivent mener des véritables campagnes électorales. Eh bien, ils voudraient non étendre ce système-là au secteur, à tout l'ensemble du secteur public, avec en plus une condition supplémentaire, c'est que non seulement il faudrait que la grève soit majoritaire, mais qu'elle soit y compris majoritaire au moins parmi 40% des membres des syndicats, c'est-à-dire qu'il faudrait non seulement majoritaire, mais une participation de 40% des syndiqués, voilà, tout en disant clairement qu'ils n'accepteront jamais le vote anonyme ou le vote en ligne, ce qui permettra toujours aux patrons, aux petits chefs, de faire pression pour dire aux travailleurs n'allez pas voter et faire baisser. C'est apparemment ce que disent nos camarades de la Trade Union Congress, et c'est l'organisation commune des syndicats, qu'aucune démocratie dans le monde n'a ce genre de restriction à l'action sociale. Voilà, ben c'est l'alignement empire vers le plus bas des conditions de travail des salariés du secteur public, et puis du droit de grève, du droit de lutter, du droit de se battre pour obtenir des meilleures conditions de travail. Ça, ben c'est le ministre Cameron qui a été si émouvant, hein, pour être venu en France, hein, saluer les victimes des attentats, mais qui n'oublie pas évidemment que lui, il a des victimes à faire, et ces victimes-là, ce sera les salariés, les travailleurs, les travailleuses des États-Unis. Voilà pour
de
Grande-Bretagne. Voilà.
Ah bah là.
Ah là là. C'est la soirée difficile. Ben, on vous souhaite une semaine de lutte. Hein, après cette semaine un peu morne, on pouvait pas parler de beaucoup de choses. Et puis on vous dit à la semaine prochaine.
Absolument.
Avec l'autre équipe, et beaucoup de luttes et de conflits certainement en perspective.
Salut.